France Musique.
Un nouveau journal avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Un parlement espagnol toujours aussi ingouvernable. Le scrutin d'hier n'a pas clarifié la situation comme l'espérait le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Bien au contraire, son parti qui gagne les élections a finalement moins de députés qu'avant. Quant à l'extrême droite, elle est ce matin la troisième force politique du pays. Isabelle Labéry, notre envoyée spéciale, nous appelle de Madrid.
La situation est toujours aussi inextricable et Pedro Sanchez toujours aussi optimiste.
Je dois vous dire que je m'y engage. Cette fois, quoi qu'il arrive, nous aurons un gouvernement progressiste qui sera dirigé par le Parti Socialiste. Et nous allons débloquer la situation politique dans ce pays.
La gauche radicale n'a pas attendu très longtemps pour proposer ses services. Il est quand même moins dangereux d'avoir des ministres Podemos dans son gouvernement, dit Pablo Iglesias, que 50 députés d'extrême droite au Parlement.
Nous sommes prêts, dès demain, à discuter d'un gouvernement de coalition. C'est la meilleure façon de freiner l'envolée de l'extrême droite, devenue l'une des plus puissantes en Europe.
Vox, l'ennemi commun, pourrait donc inciter les deux formations à faire taire leurs divergences. Mais pour atteindre la majorité absolue, il leur faudra trouver d'autres soutiens et ce sera le début d'une longue chasse aux voix, car avec 17 partis différents, ce Parlement est le plus fragmenté de l'histoire de la démocratie espagnole.
Un président qui crie au coup d'État et qui démissionne de son poste. Il s'agit du Bolivien Evo Morales. Le Mexique annonce qu'il lui offre l'asile politique. Un autre président qui se résout à une réforme de la Constitution avec l'espoir de rester au pouvoir. Le Chilien Sebastián Piñera promet de mieux prendre en compte les droits de ses concitoyens qui dénoncent, eux, la vie chère et les inégalités sociales. 22 milliards de barils en perspective, c'est la production que les Iraniens espèrent réaliser en exploitant un tout nouveau gisement de pétrole dans le centre du pays. Le président Hassan Rouhani parle d'un petit cadeau du gouvernement au peuple. Cette découverte devrait permettre à l'Iran d'augmenter ses réserves d'un tiers dans un contexte toujours très tendu compte tenu des sanctions économiques imposées par les Américains, des sanctions liées à l'accord sur le nucléaire. Après le départ des États-Unis, Téhéran a de son côté réduit au fil du temps ses engagements jusqu'à reprendre l'enrichissement d'uranium dans son usine de Fordo. Franck Madvon.
Jusqu'ici, les Iraniens violaient l'accord à mèche lente, comme le dit un diplomate. Augmentation des stocks, du taux d'enrichissement d'uranium, reprise de la recherche et du développement, un processus réversible. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. 1000 centrifugeuses en plus en action sur le site de Fordo. L'Iran va plus loin. Cette fois, le délai pour obtenir la bombe se réduit et les inspections se compliquent avec ce nouveau site souterrain qui plus est. L'Iran a même empêché pendant plusieurs heures une inspectrice de l'AIEA de quitter son territoire. Du jamais vu depuis 1991 en Irak. Il lui a même retiré son accréditation. Les Européens, France, Allemagne, Grande-Bretagne tentent de rester unis. Un communiqué commun est attendu aujourd'hui. Ils assurent que la fenêtre vers une désescalade n'est pas encore fermée, que les Iraniens restent prêts à discuter du plan français, retour à l'accord si les sanctions sont levées. Mais les États-Unis ne cessent de durcir le ton. Et en janvier, un autre ultimatum expire. L'Iran ira sans doute encore plus loin dans les violations de l'accord. À ce rythme, un jour, forcément, la fenêtre sera fermée.
Dans le nord-est de la Syrie, un attentat a fait 8 morts dans un secteur contrôlé par les Turcs. Pour Ankara, ce sont les miliciens kurdes qui sont à l'origine de cette attaque meurtrière. Prévue à partir de 2021, la fin du glyphosate en France risque de coûter très cher au monde agricole. Les députés qui doivent remettre demain leur rapport évoquent notamment un calendrier difficile à tenir pour les pouvoirs publics comme pour les professionnels. Sophie Bécherel.
En finir avec le flou et dire clairement quels agriculteurs devront se passer du glyphosate au 1er janvier 2021 et lesquels auront une dérogation, voilà résumé la position de la mission parlementaire. Et selon ses membres, c'est avant juin de l'année prochaine qu'il faut informer les filières. Selon le document dont nos confrères de l'AFP ont eu connaissance, pour certains, se passer du glyphosate ne sera pas possible, sous peine de mettre la clé sous la porte. Les parlementaires ont calculé le surcoût de la transition, frais de main-d'œuvre, frais de carburant, puisqu'il faudra passer le tracteur plus souvent, sans compter l'usage d'autres produits que le glyphosate. Au total, 50 à 150 euros de plus par hectare cultivé. Le rapport déplore par ailleurs le manque de données lisibles sur l'usage des pesticides, en tout cas pour 2018. Il recommande la création d'une plateforme qui centraliserait des données. Alors que la France a décidé de diminuer d'un quart l'usage des produits phytosanitaires entre 2016 et 2020, les derniers chiffres disponibles 2017 montraient une stagnation des ventes d'herbicides depuis 8 ans.
De la neige sur la plupart des reliefs, de la pluie sur la façade atlantique. Ailleurs, la grisaille dominera quasiment partout. Les températures iront cet après-midi de 6 à 18 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
On reste chaud avec France Musique et on vous retrouve demain dès 7h. Olivier, très bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.